Bonjour, bienvenue dans l'atelier des médias. Impossible de démarrer cette émission sans rendre hommage à notre collègue Arnaud Dubus, ancien correspondant de RFI à Bangkok. On a appris lundi sa disparition à l'âge de 55 ans. C'était l'un des meilleurs connaisseurs de la Thaïlande, d'où il assurait pendant 30 ans avec passion la correspondance de RFI en français. En 2006, un de ses sujets portait sur la liberté de la presse en Thaïlande. La liberté de la presse, c'est le thème de notre émission cette semaine.
Le gouvernement de Thaksin s'est vite rendu compte que certains des journaux ne plieraient pas face à de simples menaces verbales. Il a donc rapidement recouru aux pressions économiques bien plus efficaces par le biais des budgets publicitaires. Arnaud Dubus, Bangkok, RFI.
L'atelier des médias, Steven Jambeau.
En écho à la journée mondiale de la liberté de la presse qui se tenait le vendredi 3 mai, je reçois cette semaine dans l'atelier des médias la secrétaire générale du syndicat national des journalistes, Dominique Pradalier, pour parler des violences policières contre les journalistes en France dans les manifestations. Et puis avec Arnaud Froger, directeur Afrique de Reporters sans frontières, nous ferons un état des lieux de la liberté de la presse sur le continent africain.
Je suis journaliste. Vous me laissez bosser. Je suis journaliste. Baisse-toi. Baisse-toi. Je suis journaliste. Tu baisses ça. J'ai le droit. Oh, j'ai le droit d'être là. J'ai le droit de faire mon boulot.
Mépris, tutoiement, intimidation, menaces, insultes, tentatives de destruction ou saisie de matériel, effacement des cartes mémoire, coups de matraque, gazage volontaire et ciblé, tir tendu de lacrymogène, tir de lanceurs de balles de défense, jet de grenades de désencerclement, etc. En France, en 2019, des journalistes ont été victimes de violences de la part des forces de l'ordre. Pour en parler, je reçois Dominique Pradalier, secrétaire général du syndicat national des journalistes, premier syndicat de la profession. Bonjour.
Bonjour à tout le monde.
Si je vous invite, c'est pour parler de ce sujet, des violences contre les journalistes. Selon l'association Reporters sans frontières, près de 90 journalistes ont été victimes de violences policières depuis le début du mouvement des Gilets jaunes en France. Est-ce que c'est également le compte que vous avez pu mener ?
Écoutez, moi je m'appuie sur le compte de notre confrère David Dufresne, qui est un journaliste très sérieux, comme vous le savez, et qui, preuve à l'appui, a fait tous les signalements possibles et imaginables depuis que les journalistes sont devenus les cibles des forces de l'ordre, et lui arrive à 80. Alors ça, c'est sans compter toutes celles et ceux aux côtés desquels nous sommes dans les plaintes, et toutes celles et ceux qui nous ont contactés, mais qui ne désirent pas poursuivre, parce que dans la majorité des cas, ce sont des précaires.
Mercredi 1er mai à Paris, des journalistes ont encore été l'objet de violences quand ils n'ont pas été carrément pris pour cible de la part des forces de l'ordre. Comment analysez-vous cela ?
Eh bien, nous pensons, puisque nous avons déjà rencontré le ministre de l'Intérieur et que ça a été pire après, nous l'avons déjà alerté à plusieurs reprises depuis, nous pensons qu'on veut empêcher les journalistes de témoigner d'un mouvement qui a une ampleur et une longueur de temps inédite dans notre pays.
Le 1er mai au matin, justement, avant les manifestations, une tribune signée par plus de 350 journalistes était publiée sur le site de France Info avec cette phrase forte « Nous assistons à une volonté délibérée de nous empêcher de travailler » et enchaînée sur « Nous constatons qu'au fil de l'intensification du mouvement social et de ses violences, notre travail est devenu de plus en plus risqué, difficile, voire impossible. C'est du fait largement du comportement des forces de l'ordre elles-mêmes ». Comment est-ce que ça se fait ? Comment
écoutez,
est-ce qu'on a pu en arriver là ?
C'est affolant, c'est inquiétant, c'est grave et c'est parfaitement antidémocratique. Quand un journaliste entend un policier vouloir saisir sa caméra en affirmant que c'est une arme par destination, ce qui est arrivé à notre confrère et ami, on se dit il y a quelque chose qui va très très mal dans ce pays. Les lois constitutionnelles nous disent qu'on a le droit d'informer et d'être informé. Bon, il y a une impunité totale depuis des semaines, une impunité totale de tous les agresseurs de journalistes côté force de l'ordre. Pour le seul cabinet parisien que nous connaissons, il y a plus de 34 dossiers. Pour
c'est
ce
énorme.
Seul cabinet. Ah, c'est affolant. Et quand on pense que la France a été sévèrement mise en garde par l'ONU, par les puissances européennes, par le défenseur des droits, par le médiateur de la commission des droits de l'homme français, on se dit, mais où va ce pays? Où va ce ministre? Et
qui
les trois
pas
questions
son boulot,
qu'on
justement.
Pose sont, qui donne les ordres? Qui couvre toutes ces entraves graves à la liberté de la presse. Et quelles suites sont données ? Aucune réponse à ces trois questions.
Donc c'est le gouvernement et le ministre de l'Intérieur qui sont en premier lieu responsables, à votre avis ?
Ah ben écoutez, c'est eux qui donnent les ordres, en tout cas. Et quand on voit que la seule réponse est aussi bien de la part de Monsieur Castaner que du Premier ministre, les journalistes ne sont pas au-dessus des lois, c'est sûr, ils ne sont pas au-dessus des lois. Mais les ministres non plus ne sont pas au-dessus des lois, pas même le Premier.
Il y a une affaire qui a fait beaucoup de bruit, c'est l'affaire Gaspard Glanz, du nom de ce journaliste arrêté le samedi 20 avril à Paris dans une manifestation de gilets jaunes. Il a passé 48 heures en garde à vue avant d'être libéré. Ça a posé aussi une question, celle de ce qu'est un journaliste en France en 2019. Rappelez-nous, qu'est-ce qu'un journaliste en France ?
Oui, c'est une question un peu récurrente qui veut, dans l'esprit en tout cas du ministre de l'Intérieur, couper la profession en deux. Je m'explique, n'importe qui en France peut s'appeler journaliste, ne sera pas poursuivi. Pour être journaliste professionnel, vous devez prouver à la commission de la carte des journalistes que c'est votre emploi principal, régulier et rétribué. Et rétribué par des salaires, c'est la loi.
Et par une entreprise de presse, oui, qui distribue des salaires.
Oui, la commission s'est beaucoup adaptée, puisque de plus en plus d'entreprises ont des extensions sur Internet, etc. C'est moins vrai. Bon, il se trouve que en France, de plus en plus d'employeurs de journalistes et particulièrement de photographes sont dans l'illégalité en refusant de les payer en tant que journaliste.
Donc c'est ça, les reporters...
Ça organise donc une précarité beaucoup plus grande. Et vous avez des journalistes qui couvrent notamment les manifestations, qui n'ont pas de carte de presse. Mais bon, Gaspard Glanz n'a pas de carte de presse. Ça n'a pas empêché le SNJ, moi-même en l'occurrence, d'être au commissariat dès lundi de Pâques pour exiger sa libération.
Donc ce que disent aussi toutes ces histoires de ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est quelque chose de l'état social de la profession de journaliste.
Absolument, c'est un état social extrêmement dégradé, beaucoup de précaires, beaucoup de jeunes qui sont obligés de faire ça et autre chose, et qui ne peuvent donc plus prouver à la commission que c'est leur emploi principal. La commission réfléchit, la question est pendante. Mais ça n'empêche pas de respecter ses confrères et ses consoeurs. Je vous dis, le SNJ a été le premier à être au pied du commissariat lundi de Pâques. Donc ça n'empêche pas de les soutenir.
Que faut-il faire ? Faut-il donner la carte de presse à davantage de personnes ou alors revoir ses moyens d'attribution ? La procédure d'attribution de la carte de presse doit-elle être révisée ?
Non, parce que, en tout cas, pas de façon massive. Pourquoi ? Parce que la carte de presse est l'emblème d'un statut. Le statut des journalistes est un statut dérogatoire et un des meilleurs statuts en Europe et dans le monde pour les journalistes. Si on commence à détricoter ce statut, c'est donner raison à tous les employeurs qui sont dans l'illégalité. Et nous qui nous battons tous les jours avec beaucoup de confrères et de consoeurs, de jeunes, etc., pour faire rentrer ces employeurs dans le droit chemin, on ne s'y retrouverait plus, il n'y aurait plus de profession du tout. Tout le monde ferait tout et n'importe quoi. Et on se retrouverait au début du XXe siècle, quand la profession n'était pas organisée.
Mais on voit aussi des forces de l'ordre qui arrêtent dans des manifestations journalistes reporters d'images qui ne sont pas en mesure de présenter une carte de presse et qui donc se font embarquer.
Oui, absolument. Et on voit aussi des forces de l'ordre qui arrêtent des journalistes avec carte de presse et qui subtilisent la carte de presse. Et nous avons plusieurs exemples, nous avons des preuves. Et pas des journalistes pigistes, hein, des journalistes de grandes entreprises. Par exemple, l'AFP.
Que faire ?
Eh bien, je pense que le gouvernement doit se reprendre et donner des ordres pour que, désormais, les journalistes puissent travailler correctement. Ils représentent les citoyens et ils ont pour mission de les informer. On ne peut pas les arrêter comme ça.
On observe une défiance plus forte que jamais envers les journalistes et les médias en France. Et avec d'autres organisations, vous appelez les journalistes français à se rassembler le 16 mai prochain afin de lancer les bases d'une instance nationale de déontologie. Pourquoi ?
Alors c'est une vieille revendication du Syndicat national des journalistes de dire il faut une instance indépendante, vraiment indépendante, qui puisse se saisir de dysfonctionnements, être saisie par des citoyens, faire une enquête, émettre un avis destiné à être rendu public dans le ou les médias concernés. Et quand nous parlons d'instance indépendante, c'est pour souligner que le CSA ne l'est pas du tout. Le CSA, dont je vous rappelle, Conseil supérieur de l'audiovisuel, les 9 membres sont nommés par les pouvoirs politiques. Donc ce n'est pas du tout une instance indépendante. Donc nous, nous voulons une instance indépendante qui serait paritaire, journaliste, éditeur, bien évidemment avec des représentants de la société civile. Ce sont les premiers intéressés. Et je vous rappelle que ce type d'instance existe dans une 20aine de pays européens.
En Belgique, en Suisse.
Notamment, absolument, qui font un travail formidable et qui permettent aux citoyens de comprendre qu'on prend en compte leurs requêtes, leurs plaintes, leur étonnement, leur condamnation.
L'idée, c'est d'aller plus loin que la charte des devoirs des journalistes qui date de 1918, d'organiser la profession et de la faire s'auto-contrôler.
Bien évidemment, c'est à la profession de s'autocontrôler. La charte de 1918 est la seule charte nationale en France. Hein. Il y a la déclaration de Munich, qui est sa fille d'ailleurs, qui est reconnue par certains employeurs. La charte de 18 est reconnue dans tout l'audiovisuel public ou presque, et dans d'autres secteurs, mais les employeurs ne veulent pas de ces chartes. Ils n'en veulent pas. Ils veulent rester maîtres de leurs petites manipulations. Deuxième point dont nous exigeons qu'il vienne à maturation dans les esprits, c'est la reconnaissance juridique d'une équipe rédactionnelle dans chaque entreprise de presse. Pourquoi ? Parce que, initiateur de ce statut exceptionnel, le SNJ a notamment fait acter la clause de conscience. C'est une clause individuelle qui est remarquable, qui permet aux journalistes de quitter l'entreprise en disant « ma conscience m'interdit de continuer ». Sauf que maintenant, face aux très grands groupes qui possède les médias, elle est insuffisante. Il faut une clause de conscience collective de l'équipe rédactionnelle qui représente l'âme du journal, de l'entreprise de presse, de la radio, etc. Si les journalistes qui ont fait une merveilleuse grève à iTélé, 31 jours de grève, pour l'honneur, je vous le rappelle, pour l'honneur, d'honneur professionnel, bien sûr. Si ces journalistes avaient été membres d'une société reconnue légalement, je pense qu'ils auraient été beaucoup aidés dans leur combat.
Vous pensez qu'en s'organisant de telle façon, on pourrait répondre en partie à cette défiance et trouver une solution face à ces gens qui disent « les médias tous les mêmes » pour reprendre l'appellation de cette année des Assises internationales du journalisme auxquelles vous participiez d'ailleurs ?
Absolument. Un des bons points du mouvement des Gilets jaunes est d'avoir appris aux citoyens qu'il y avait une différence entre les journalistes de terrain et certains éditorialistes. Et les Gilets jaunes ou ceux qui se revendiquaient des Gilets jaunes ont bien fait le distinguo, très bien fait. Et ils ont séparé les journalistes d'un côté et les médias de l'autre. Et maintenant, ils manifestent toujours contre les médias. Et deuxième point, dans les rédactions, ça a beaucoup discuté, ça discute toujours, pour dire mais quelle information nous mettons à l'antenne ? Si moi, sur le terrain, je constate qu'il y a tant de personnes, beaucoup, pas du tout, ou qu'il y a peu ou pas de destruction, ou qu'il y a un feu, oui, d'accord, mais c'est un feu de poubelle, ça prend une autre dimension que ce qu'on a vu sur les chaînes d'information continue, qui était de revenir sans cesse sur les violences, sur les violences, sur les violences, sur les feux, sur les feux, sur les feux, même si c'était une seule poubelle, créant par là un contexte anxiogène et de mauvaises informations. De mauvaises informations sur les chiffres, sur la pérennité, sur les revendications, etc. Vous avez un discours dominant maintenant qui est dénoncé par beaucoup de citoyens, bien au-delà des Gilets jaunes, qui dit « mais attendez, vous passez votre vie à dire que les Gilets jaunes, par exemple, ne savent pas ce qu'ils veulent. » Ben, si, ils savent ce qu'ils veulent. Vous passez votre temps à dire que les chiffres sont en baisse. Mais c'est pas vrai. Vous donnez les chiffres du ministère de l'Intérieur sans même le sourcer, sans même dire à quelle heure le chiffrage a été donné.
On a vu là le 1er mai, cette fois-ci, les médias fournir un chiffre mesuré par leurs soins de la mobilisation à Paris.
Plus de 5 mois nécessaires pour ça. Plus de 5 mois. Et je reviens aux plaintes. En référé, vous avez la justice s'abat assez fortement sur les personnes interpellées. Il y a des condamnations en prison, etc., etc., qui sont très fortes. C'est-à-dire procédure ultra rapide, la procédure de référé. Mais les plaintes, depuis 5 mois, on attend toujours.
David Dufresne, aux Assises du journalisme, où il a, vous le citiez tout à l'heure, il a reçu un prix justement pour son travail de recensement des violences policières dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes. Il disait aux journalistes « Faites votre boulot, merde ». Avez-vous l'impression que les journalistes font mieux leur boulot sur les violences policières depuis quelques semaines ?
Oui et non. Oui et non. Et quand je parle des journalistes, quand nous parlons des journalistes, faudrait voir de qui on parle. Si on parle des journalistes de terrain, globalement, ils ont plutôt bien fait leur travail de bout en bout. Si on parle des hiérarchies journalistiques qui sont rarement mises en cause, mais qui donnent le là et qui commandent, c'est une autre affaire. Et c'est pour ça que je dis que c'est important qu'il y ait des discussions dans les rédactions. Effectivement, quand nous avons vu qu'il a fallu 5 mois pour qu'une chaîne d'information en continu commence à préciser les informations qu'elle donne, on dit oui, c'est aux journalistes de bien faire leur travail. Oui, mais à tous les journalistes. Et un conseil de presse tel que nous le souhaitons ardemment, viserait à dégager toutes les responsabilités. Parce qu'on montre toujours le doigt du journaliste, du doigt le journaliste, mais on ne montre pas toute sa hiérarchie. Or, toutes les erreurs qui passent à l'antenne ne devraient jamais exister, puisque le journaliste a au-dessus de lui un chef de service, un rédacteur en chef, un directeur, et toute une pléthore hiérarchique très utile quand ils font bien leur travail, mais très dure quand ils pèsent sur le journaliste.
Merci Dominique Pradelier.
Merci à vous.
Je rappelle que vous êtes secrétaire général du Syndicat National des Journalistes, le SNJ. Et j'invite nos auditeurs à réécouter l'immense travail de Ziad Maalouf et de son équipe sur ce sujet des violences contre les journalistes en France. Les 8 et 14 juillet 2017, ils consacraient déjà 2 émissions d'1 heure à ce sujet. Vous pouvez les retrouver en réécoute sur atelier.rfi.fr.
Et en fait, alors que je parle pas, ils me disent à plusieurs reprises « ferme ta gueule, ferme bien ta gueule », machin. Bref. Là-dessus, donc, ils me rendent mon téléphone en ayant compris qu'il n'y avait plus les images en question. Et ils me demandent d'allumer mon appareil photo. Et ils veulent regarder mes photos. Ils commencent à regarder les photos et il se trouve que la première photo qu'ils voient, c'est une photo en fait de cette équipe-là en train de tirer. Et donc là, voyant ça, ils se retournent vers moi. Ils me demandent si je me fous de sa gueule. Enfin, ils me disent « tu te fous de ma gueule, c'est quoi cette photo ?» Tout ça. Et je leur explique que je veux bien l'effacer. Ils m'attrapent à l'épaule. Ils me frappent très violemment au visage avec mon propre boîtier. Donc j'ai eu ensuite une blessure sur la lèvre, dans la bouche et au niveau de la cloison nasale. J'ai eu 3 jours d'ITT à la suite de cette blessure. Et une fois qu'il m'a mis ce coup et donc que je suis au sol avec avec un début de coup de sang dans la bouche, il ouvre le clapet de carte mémoire, il prend ma carte mémoire, il me jette mon appareil photo sur moi, il me rend mon sac à dos et il me dit « vas-y maintenant casse-toi et si on te revoit ». Il m'explique que tous ses collègues m'ont identifié, donc que si pour le coup il me revoit sur le dispositif, là je vais vraiment avoir des soucis.
http://atelier.rfi.fr
Bonjour Arnaud Froger.
Bonjour.
Vous êtes le directeur Afrique de l'association Reporters sans frontières et vous êtes avec nous par téléphone depuis Addis Abeba en Éthiopie où se tient un événement pour la Journée mondiale de la liberté de la presse à l'initiative de l'UNESCO. Alors je vais reprendre les termes employés par RSF. L'Afrique enregistre la plus faible dégradation régionale de l'édition 2019 du classement, mais aussi certaines des plus fortes évolutions de l'année écoulée. Alors on va y revenir, mais pour que ceux qui nous écoutent comprennent bien, pouvez-vous nous rappeler brièvement sur quels critères RSF établit son classement ? Concrètement, comment travaillez-vous ?
Reporters sans frontières établit ce classement mondial de la liberté de la presse depuis 2002. Donc c'est un classement qui a une certaine ancienneté et maintenant une certaine notoriété. Nous évaluons tous les aspects de la liberté de la presse à travers 7 critères. Il y a l'indépendance, par exemple, le pluralisme des médias, le degré d'autocensure, le niveau d'exaction qui est commis contre les journalistes et les médias dans les pays. Bref, 7 critères qui couvrent tous les aspects de la liberté de la presse et qui font l'objet d'une évaluation auprès d'experts que nous identifions dans chaque pays et qui répondent à un questionnaire très exhaustif. Nous compilons les données, nous établissons une note, nous confrontons cette note ensuite avec notre propre analyse et notre propre expertise et nous établissons donc chaque année le classement mondial de la liberté de la presse qui classe les pays de 1 à 180.
Très bien. Alors j'aimerais, pour commencer, qu'on s'intéresse à quelques pays africains qui font l'actualité de ces derniers jours ou ces dernières semaines. Parlons tout d'abord du Bénin, où se sont tenues des élections législatives dimanche et où la tension règne. Alors le Bénin a perdu 12 places dans le classement 2019 de RSF, passant de la 84e à la 96e place. C'est un exemple de démocratie en Afrique de l'Ouest, où il y a un pluralisme médiatique, 70 radios, une 60aine de titres de presse, une 15aine de chaînes de télévision. Ce pluralisme, ces derniers jours, avez-vous l'impression qu'il est en danger ? Avez-vous des remontées du terrain qui pourraient vous laisser penser cela ?
Et il est en danger non seulement ces derniers jours, mais il est en danger depuis plusieurs années, en fait. Depuis l'arrivée au pouvoir du nouveau président Patrice Talon, on constate année après année un recul de la liberté de la presse au Bénin, qui se caractérise de plusieurs manières. On a des suspensions de médias. L'année dernière, un grand journal proche de l'opposition qui s'appelle La Nouvelle Tribune a été suspendu sans durée de fin, d'ailleurs, de suspension, de manière complètement arbitraire. Il arrive également que des journalistes soient intimidés. Il y a également une tentative de museler le débat public. Il y a un service de communication qui envoie des notes de cadrage aux rédactions pour leur donner des angles, des façons de traiter les sujets d'actualité. Donc il y a une volonté de faire taire les critiques qui peuvent être émises par la presse au Bénin depuis l'arrivée au pouvoir de Patrice Talon. Et j'ajoute que il y a également, on note une faible présence des représentants de l'opposition sur les médias publics. J'en profite d'ailleurs pour signaler qu'une grande chaîne de télévision qui appartient au principal adversaire politique du président est toujours fermée, et ce malgré une décision de justice qui avait ordonné sa réouverture il y a de ça quasiment 2 ans.
Intéressons-nous maintenant au Soudan, où la situation est particulière après des manifestations inédites contre Omar El-Béchir. Omar El-Béchir a dû quitter le pouvoir, destitué par l'armée. La population continue de faire pression pour que le pouvoir soit transféré aux civils, et on observe ces dernières semaines au Soudan une amélioration de la liberté de la presse, alors que le pays est 175e de votre classement.
Oui, mais alors le combat est loin d'être gagné pour les journalistes et les médias soudanais. Le contexte politique dans lequel évoluent les médias, les journalistes soudanais, reste relativement incertain et donc fragile. Il est vrai qu'au cours des manifestations qui ont précédé la mise à l'écart d'Omar El-Béchir, qui était considéré d'ailleurs par RSF comme l'un des pires prédateurs de la liberté de la presse sur le continent africain, cette mise à l'écart a permis effectivement à des médias qui étaient constamment censurés, à des journalistes qui étaient constamment arrêtés, de retrouver une certaine marge de manœuvre et une certaine liberté de ton pour couvrir l'actualité de leur pays. On constate effectivement moins d'exactions. Il faut dire que le niveau d'exaction était quelque chose de sans précédent au Soudan. Plus environ une centaine de journalistes arrêtés depuis le début du mouvement, plusieurs dizaines de confiscations de médias. Mais il va évidemment falloir que ces changements positifs qui sont à l'œuvre depuis le renversement d'Omar El-Béchir soient institutionnalisés. Il faudra que les lois sur la presse soient changées. Il faudra aussi que les services de renseignement qui faisaient figure de véritables polices politique et qui intervenait directement dans les rédactions pour pratiquer la censure, pour sélectionner les articles, voire parfois pour retirer les copies des imprimeries. Il faudra que ce service de renseignement soit tenu responsable, soit poursuivi pour les crimes qu'il a commis à l'égard de la liberté d'expression, à l'égard de la liberté de l'information. Donc il y a des enjeux par rapport à l'impunité, et puis il y a des enjeux, je dirais aussi, par rapport à la sédentarisation des changements positifs que l'on a constatés ces dernières semaines.
Autre pays où il y a eu un mouvement populaire qui est toujours en cours, c'est en Algérie. Le directeur du grand quotidien francophone El Watan était notre invité le 16 mars dans l'atelier des médias, et il nous disait que maintenant, même si c'est un pays où la presse a toujours pu s'exprimer clairement, que c'était encore plus facile maintenant et qu'il n'y avait plus, je le cite, de sbires du pouvoir en train de contrôler ce qu'écrivait au quotidien la presse.
Si vous voulez, c'est l'un des grands enseignements du classement mondial de la liberté de la presse qu'a publié RSF il y a de ça 2 semaines. Les changements de pouvoir dans les régimes les plus autoritaires, qui sont souvent aussi les régimes les plus liberticides à l'égard de la presse et des médias, les changements de pouvoir ont souvent une influence positive. Ce qui se passe en Algérie, à l'instar de ce qui se passe au Soudan ou de ce qui s'est passé il y a un peu plus longtemps en Éthiopie ou en Gambie, a effectivement des incidences positives et permet aux journalistes de retrouver une liberté de ton qu'ils avaient pour une partie d'entre eux perdue. Vous savez, il y a aussi la dimension psychologique. Quand pendant des années, il a été compliqué d'écrire sur certains sujets, il y a des réflexes d'autocensure évidemment qui ont été à l'œuvre et qu'il faudra perdre. Et ça, c'est un apprentissage qui prend du temps. Et il faudra aussi du temps à la presse de ces pays-là pour se reconstruire et pour pouvoir embrasser pleinement la fonction de quatrième pouvoir qu'ont les médias dans les sociétés.
Alors le pays depuis lequel nous vous exprimez et vous nous parlez là en ce moment même, c'est l'Éthiopie. L'Éthiopie qui connaît un nouveau souffle grâce à un changement de régime, vous venez de le dire. Pour la première fois depuis 15 ans, au plus aucun journaliste n'est en prison en Éthiopie. Plusieurs centaines de médias ont été autorisés, cite RSF. L'Éthiopie reste à la 110e place de votre classement. C'est, cela dit, un bond de 40 places par rapport au précédent classement. Et donc RSF demande à ce que ses efforts en Éthiopie continuent. Il y a tout de même des raisons d'être optimiste.
Il y a des raisons d'être optimiste. C'est un optimisme prudent, je dirais. L'Éthiopie a effectivement fait un bond spectaculaire de 40 places au classement et c'est justifié, comme vous l'avez rappelé, par la libération de journalistes, par le fait que depuis plus de 10 ans, c'est la première fois qu'à la fin de l'année 2018, il n'y avait plus un seul journaliste dans les geôles éthiopiennes, par le fait aussi que de nombreux médias, plus de 200 sites ont été autorisés à ouvrir, à émettre pour certaines télés qui étaient en exil et qui ont pu revenir s'installer au pays. C'est justifié aussi par une réforme du cadre légal qui est en cours, mais qui n'a pour l'instant pas abouti. Et tout l'enjeu maintenant, ça va être de concrétiser ces efforts en institutionnalisant ces changements positifs, en faisant en sorte que les lois très répressives contre la presse en Éthiopie, notamment la loi antiterroriste de 2009, soient révisées et ne servent plus de prétexte finalement pour poursuivre de manière arbitraire des journalistes. Et j'ajoute que dans le contexte éthiopien, l'un des grands enjeux, ce sera aussi la professionnalisation du secteur des médias afin d'éviter ce que l'on voit en ce moment, c'est-à-dire le développement de fausses informations, le développement de discours d'incitation à la haine. Et donc il faudra effectivement que les journalistes et les médias éthiopiens, les parties prenantes, puissent se réunir pour mettre en place des formes d'autorégulation efficaces afin d'éviter qu'il y ait un retour en arrière et que le pouvoir d'Abiy Ahmed soit tenté de légiférer pour justement revenir sur ses acquis.
Dans votre rapport, vous écrivez « Continent des contrastes, l'Afrique est aussi celui de la continuité du côté du pire », avec la République démocratique du Congo qui se maintient à la 154e place. C'est le pays où RSF a enregistré le plus d'exactions en 2018. Expliquez-nous.
Oui, pour la deuxième année consécutive, effectivement, la RDC reste le pays d'Afrique subsaharienne où Reporters sans frontières a enregistré le plus d'exactions, environ 120 exactions l'année dernière. Le spectre est très large, hein, ça va de l'intimidation, de l'agression aux arrestations arbitraires en passant par la suspension de médias. Il y a des journalistes d'investigation qui ont été contraints de fuir leur domicile après une enquête sur l'ex-président Joseph Kabila. Ce que l'on espère maintenant, c'est qu'encore une fois, à la faveur du changement de pouvoir, alors même si c'est un changement de pouvoir avec des alliances de circonstances, on espère que le nouveau président se démarquera.
Félix Tshisekedi, donc.
Voilà, le Félix Tshisekedi se démarquera de son prédécesseur en faisant de la liberté de la presse un pilier du développement démocratique au Congo. Et c'est une réponse aussi à son électorat en RDC. Il doit faire de la presse un des piliers du pays parce que c'est un pays dans lequel les médias sont très nombreux, les journalistes sont très nombreux, mais c'est aussi un pays dans lequel les exactions sont également très nombreuses. Le premier pas pour ça, c'est encore une fois de réformer le cadre légal. La base sur laquelle se fonde l'exercice du métier de journaliste en RDC est très mauvaise. C'est un texte qui date de 1996, qui avait été signé de la main du maréchal Mobutu et qui était extrêmement répressif, qui prévoit des peines extrêmement sévères. Et si cette base-là, légale, n'est pas réformée, eh bien l'instrument juridique qui sert à réprimer les journalistes restera aux mains du pouvoir. Et évidemment, ce n'est pas ce que souhaitent les Congolais, ce n'est pas ce que souhaite RSF. Et nous attendons le président Félix Tshisekedi à agir rapidement dans ce sens-là.
Pour réprimer les journalistes, ou en tout cas les empêcher de s'exprimer, à une époque, eh bien, on saisissait une imprimerie, on fermait un journal administrativement. Maintenant, on peut plus globalement empêcher tous les producteurs d'informations de s'exprimer, notamment en coupant Internet. C'est quelque chose que l'on voit dans plusieurs pays, on voit ça au Togo, on a vu ça aussi au Bénin dimanche dernier. Est-ce que c'est quelque chose que vous aussi avez remarqué et dénoncé ?
Oui, c'est une tendance très lourde et c'est effectivement une tendance très inquiétante dont l'Afrique s'est fait une petite spécificité. Au cours des 5 dernières années, plus de la moitié, enfin environ la moitié des 48 pays d'Afrique subsaharienne y ont eu recours. Et ce qu'on note, c'est que sur ces pays qui ont eu recours au cours de ces 5 dernières années, vous en avez cité quelques-uns, on pourrait citer le Zimbabwe, la RDC y a eu recours, le Cameroun est un champion dans cet exercice. Et bien ce qu'on note, c'est que sur les pays qui ont eu recours, il y a effectivement 80% ces pays qui étaient dirigés par des hommes politiques qui étaient au pouvoir depuis plus de 13 ans. Donc il y a un vrai lien de corrélation entre l'autoritarisme d'un régime et le recours à ce type de méthode pour censurer la liberté de circulation d'informations sur Internet. C'est évidemment contraire au droit international et c'est un outil qui apparaît de toute façon complètement anachronique désormais. Il y a une multitude de possibilités de pouvoir s'informer et couper Internet n'empêche pas les citoyens de pouvoir détourner ces coupures et de pouvoir s'informer. C'est une méthode qui est à la fois liberticide, complètement anachronique et inadaptée.
Merci Arnaud Froger.
Je vous en prie.
J'en profite pour informer nos auditeurs qu'une place portant les noms de Ghislaine Dupont, Claude Verlon et Camille Lepage a été inaugurée vendredi 3 mai dans le 2e arrondissement de Paris. Ghislaine Dupont était grand reporter à RFI, Claude Verlon était technicien de reportage à RFI. Tous deux ont été assassinés à Kidal au Mali le 2 novembre 2013. Quant à Camille Lepage, elle était photojournaliste indépendante. Elle a été assassinée en Centrafrique le 12 mai 2014. Tous les trois sont morts dans l'exercice de leurs fonctions et pour la liberté d'informer.
Mondoblog.org.
C'est bientôt la fin de cette émission, l'heure de Mondoblog Audio qui parle cette semaine de la liberté d'expression à Madagascar. Tiassoa Ratsiran, dite Tiazi, a écrit un billet au titre éloquent « Liberté d'expression, paix à ton âme ».
Au XXIe siècle, je vis dans un pays où dire ce que l'on pense est devenu un crime. Ce pays, c'est Madagascar. Que dire ? Liberté d'expression, paix à ton âme. En 2016, le gouvernement a décidé d'adopter un nouveau code de la communication. Un horrible code, si je peux me permettre. Un code qui entrave la liberté d'expression sur tous les plans. C'est simple, plus personne ne peut plus rien dire. Journaliste, blogueur, utilisateur des réseaux sociaux. Ce code fait en sorte que toute personne qui souhaite s'exprimer hésite vraiment à le faire. C'est devenu une véritable psychose. Nous ne pourrons plus nous plaindre. Nous ne pourrons plus exprimer des idées contraires à ce que veulent certaines entités. La psychose est devenue tellement grande que même faire un statut politique sur Facebook terrifie les internautes. Adieu la critique, adieu la parodie, vous êtes devenu un crime. Cela me laisse un goût amer dans la bouche car, en tant que journaliste, je croyais à la lutte pour la liberté d'expression, la lutte pour la liberté de la presse. C'est presque les deux seules choses auxquelles je croyais, tellement mon pays est dévasté. Mais bon, je vais creuser une tombe et organiser les funérailles de notre si chère liberté d'expression.
C'était Tiazi, que vous pouvez retrouver sur son blog Tiazi Raconte. Et rendez-vous sur mondoblog.org pour retrouver tous les Mondoblog audio diffusés à ce jour. C'est la fin de cette émission que vous pouvez entendre en version longue sur notre podcast. Elle a été préparée avec Camille Sarrazin, Camille Deloche et Léo Caravagna. À la réalisation, Simon Decreuse, au micro, Steven Jambeau. Je vous dis à la semaine prochaine, même jour, même heure à la radio. Notre émission portera sur le fact-checking pendant les élections européennes. D'ici là, si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner au podcast de l'Atelier des médias.